Mais une seule remarque, tenez, tout de même encore, avant de commencer. Un plan simplement humain. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des imbéciles. Prenez le pire d'entre tous, le plus excédent, le plus exaspérant, le plus odieux. Et puis, cet être-là va mourir. Ben, il prend une grandeur. Il prend sa grandeur. Là, vous êtes n'importe quoi. Prenez, si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, pensez qu'il va mourir. Qu'il va lui arriver quelque chose devant lequel on est obligé de se prosterner. Et dès que quelqu'un souffre d'une souffrance vraie, l'embêtant, c'est qu'il y a aussi il y a toutes sortes de souffrances qui ne sont pas vraies. On le sent bien, c'est exaspérant, et on a quelquefois envie de flanquer une souffrance vraie à quelqu'un, pour que justement il sorte de celles qui ne sont pas vraies et qu'il prenne un peu de consistance. Ben, malheureusement, ça ne nous appartient pas, ou heureusement, d'agir ainsi. Bon, mais quand on est en face d'une souffrance vraie, d'une détresse vraie, et naturellement de la mort, quel que soit l'individu humain, il prend une dimension, une troisième dimension, une quatrième dimension, enfin, tout ce que vous voudrez, quelque chose qui même a un plan sans la foi, quoi, mérite le respect. Hein? On se découvre devant les cadavres, mais on ne s'est pas découvert devant le bonhomme tant qu'il était vivant, n'est-ce pas? Ben, probablement parce que justement, c'était, on le méprisait tant qu'il était vivant. Et dès qu'il est mort, on le respecte. J'ai été frappé une fois parce que dans un film anglais, peu importe lequel, ah, je crois que c'est les révoltés du Bounty. Ou de la Bounty, je ne sais plus. Bounty. Bon. Alors, le capitaine est un personnage assez odieux pour faire fouetter un homme mort. Et alors, évidemment, moi qui suis un peu douillé, je me disais, bon, moi j'aimerais mieux qu'on me fouette mort que vivant. Et vous ? Et cependant, ça paraissait plus révoltant à tout l'équipage, n'est-ce pas ? Ah oui, parce que là, il touchait quelque chose de sacré. Donc la mort nous rend sacrée. On sent déjà ça. Alors la souffrance, déjà un peu. Et c'est un peu... Et finalement, nous n'avons pas d'autre grandeur. Vous comprenez ? Toutes les grandeurs que nous essayons d'acquérir à l'aide de nos qualités, de nos actions, de nos... Tout ça à côté de la grandeur que nous avons parce que nous allons mourir. C'est quand même autre chose. Seulement, cette grandeur-là est obscure, irritante, déconcertante, et on se demande qu'est-ce que ça veut dire, et puis on peut en avoir peur. C'est une grandeur qui fait peur, et à juste titre. Hein? Alors, c'est là qu'il est bon d'avoir la lumière chrétienne, pour que cette grandeur même nous soit présentée comme une voie d'accès, si nous savons la contempler, mais elle, cette grandeur-là, l'être qui meurt, comme telle. Comme une voie d'accès au visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Voilà. Donc nous allons parler de la vie, de la mort, des jeux. Ce qui est le temps pascal, c'est normal. Des jeux de la vie, de la mort, de l'amour et de la résurrection. Voilà, un petit peu comment, dans la lumière de la foi, tout ça joue. Là, on va commencer par la mort, si vous voulez, un petit peu. C'est normal, c'est très classique ce que je fais là. Je ne fais pas exprès, mais enfin, dans les méditations selon saint Ignace, on commence par là. Alors, ma foi. Ben, vous savez, ce n'est pas facile de parler de la mort. Plus je vais, je m'aperçois que c'est bien difficile. Parce que ce qui est difficile, ce n'est pas d'en parler. Je veux dire, ce n'est pas parce que ça fait peur, ce n'est pas ça. Mais c'est parce que ce qui est très difficile, c'est de parler exactement de la mort et non pas d'autre chose. Par exemple, je ne voudrais pas parler de ce qui vient après la mort. Ça, justement, une des caractéristiques de la mort, si je la prends comme événement humain, car c'est d'abord un événement humain tout de même, eh bien, c'est que si on laisse de côté la lumière de la foi, dont il n'est pas démontré qu'elle a tout gagné en nous encore, hein, bon, mais au plan où elle se présente très concrètement aux yeux de n'importe quel pauvre bougre comme vous et moi, une des caractéristiques de la mort, c'est qu'en fin de compte, je dis en fin de compte, la foi mise à part, mais enfin, tout de même, en fin de compte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Parce que même avec la foi, on ne sait pas du tout ce qui va se passer de l'autre côté, quel accueil va-t-on recevoir quand on va arriver. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'on sait vraiment, concrètement, qu'on peut se représenter, qu'on peut imaginer, même si on a la foi, ce qu'il y a après la mort. Alors, on est tenté, justement, quand on parle de la mort, de dresser un tableau de ce qui va se passer après. C'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de la mort en tant que c'est un événement de notre vie. Et le principal. Celui que l'Église nous le dit, Maria Winowska le répète à propos du Bercolb, la mort se prépare par toute une vie. Bon, toute notre vie est destinée à préparer ce moment-là où nous prendrons notre grandeur suprême. C'est le moment où nous serons vraiment quelque chose et quelqu'un de sérieux aux yeux de Dieu. C'est justement ce que nous croyons. Eh bien, cet événement qui a une telle importance, il faut regarder en face, il se présente à nous comme comportant deux faces, lui aussi comme le visage de Dieu. Il y a le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, le visage de Dieu qui ressemble à rien. Je l'ai souvent dit à ceux qui m'entendent, qui m'ont déjà entendu. Mais il y a aussi un visage de la mort qui ressemble à quelque chose, puis il y a un visage de la mort qui ressemble à rien. Et le visage de la mort qui ressemble à rien, c'est ce qu'il y a derrière. Ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Le néant, le sommeil, comme pensait Hamlet. Le sommeil avec des rêves, ou le sommeil sans rêve. Vous voyez, ça fait déjà trois hypothèses. Le néant, le sommeil comateux, un sommeil traversé de rêves, ou alors, au contraire, est-ce que c'est, mais c'est aussi inimaginable que le néant, en fin de compte, l'explosion fantastique d'un éveil, comme on ne s'est jamais éveillé, tel qu'on découvrira que jusqu'à présent, on dormait, en fait, comparé à l'intensité de vie qui nous attend de l'autre côté. C'est évidemment ce que va nous enseigner la foi, mais ça n'empêche que c'est irreprésentable, c'est imaginable, c'est inconnu, justement. De toute façon, ça ne ressemble à rien. Mais la mort a un côté qui ressemble à quelque chose. Mais alors ce côté-là, il appartient à la vie de ce monde. Ce sont toutes les étapes de souffrance et quelquefois d'horreur. La mort nous fait peur, la mort nous fait horreur. Voilà tout ce que j'en sais de plus sûr, moi, de la mort. Voilà comment je la définirais, c'est pas ce qui, souverainement, nous fait peur et nous fait horreur. Et alors ceci de deux façons. L'une sensible, qui n'est pas la plus grave. L'autre spirituelle et intellectuelle, qui est beaucoup plus redoutable. Et qui justement s'appuie sur l'inconnu lui-même. Imaginons, c'est ce dit Dostoïevski, je crois, à peu près dans L'Idiot, imaginons que nous ne devions pas souffrir avant de mourir, nous ne devions pas souffrir physiquement avant de mourir, que notre vie soit très agréable jusqu'au bout, et que nous ne sachions simplement pas du tout ce qui nous attend de l'autre côté. Pas si c'est le néant, le sommeil, des rêves ou l'éveil. On ne sait pas, on ne sait rien. Et si on sait, on a beau savoir, ça n'entre pas, ce qui est bien notre cas à beaucoup d'entre nous. On a beau savoir par la foi, on se répète comme un catéchisme, oui, voilà ce qui va m'attendre, mais au fond, est-ce que ça entre ? Donc, supposons que cette mort doive être indolore, c'est à ce moment-là qu'elle serait le plus terrifiante. Mais pourquoi ? Parce qu'une mort indolore, ça veut dire une vie indolore. Mais une vie indolore, ça serait très agréable. Imaginez comment on se cramponnerait à la vie s'il n'y avait pas, justement, à chaque instant, un peu de mort qui nous arrive, par un bout ou par l'autre, et qui nous décramponne, et qui nous détache, et qui nous fait pas trouver tellement passionnant. On se passionne pour des choses, et puis on se casse la figure. Alors on se dépassionne quand même un peu, quoi. Hein? Mais imaginez qu'on ne se casse pas la figure. Alors on ne se dépassionnerait pas. Puis un beau jour, tant, comme ça. Et de savoir que, à tel moment, ça y est, ça va être fini. À supposer qu'on soit vraiment heureux de vivre. Ben, ça nous ferait quand même très peur. Et à mon avis, ce serait pire que la souffrance avec son visage d'horreur physique, alors que nous pouvons imaginer à travers... Alors, je n'ai pas envie d'évoquer toutes les possibilités d'horreur physique qui sont imaginables autour de la mort. Vous en avez les accidents de la route, les maladies, les guerres, les incendies, les enfants du Biafra, enfin, on n'a que l'embarras du choix, quoi. Et ça fait partie de ce que je sais de la mort. Moi, je sais que c'est ça. Je ne dis pas que je ne sais rien d'autre, mais je sais d'abord que c'est ça. Bon. Eh bien, on va méditer là-dessus. Pas si vous vous rendez compte. On va méditer là-dessus. Et je voudrais vous faire sentir déjà à quel point pour la plupart des humains, méditer là-dessus impliquerait une conversion que pratiquement, moi en tout cas, je désespère d'obtenir. Quand je vois comment vivent les gens, quand je sens comment vivent les gens, je me dis, mais je n'arriverai jamais, et Dieu arrivera-t-il jamais à les faire méditer sur la mort? C'est quand même quelque chose. Parce que justement, la mort faisant peur, on n'a pas envie d'y penser, quoi, c'est tout. Et alors, je vais jusqu'à dire que ce qu'on appelle souvent le courage devant la mort, c'est une certaine manière de ne pas y penser. Même jusqu'au bout, car on peut très bien aller jusqu'au bout et aller jusqu'à mourir sans y penser. Bon, avec un peu d'entraînement, je pense que c'est pas complètement impossible. Je me rappelle la confidence d'un ancien nazi qui a failli être exécuté par les Yougoslaves et qui était à deux doigts de se dire « ça y est, je vais y passer ». Et il m'a dit, j'avais dans ma tête, à ces derniers instants, un disque qui m'avait été seriné par mon parti, par le parti nazi, « mourir comme un homme, mourir comme un homme, mourir comme un homme, mourir comme un homme ». Alors grâce à ça, il ne pensait pas à la mort. Il pensait à mourir comme un homme. Ce qui fait qu'il détournait son attention de ce mystère d'inconnu qui fait peur pour se concentrer sur l'instant présent, le visage, la tête qu'on va faire, et jusqu'au bout, comme le capitaine qui est le dernier sur son navire, hein, maintenir la sauver la face. C'est une solution. Mais ce n'est pas ce que j'appelle méditer sur la mort, c'est pas ce que j'appelle mourir consciemment. Voyez-vous, moi je comprends très bien, je vais pas jeter la pierre à ceux qui vont comme ça. Tous les trucs sont bons pour s'en sortir. Hein. Moi, je ne leur en veux pas, mais j'appelle pas ça regarder la mort en face. Et je maintiens que ce que le christianisme nous offre, et à certains égards ce qu'il nous demande, c'est tout de même de regarder la mort en face. Et je maintiens aussi qu'il y a un immense refoulement dans la psychologie des hommes que je vois autour de moi, précisément à l'égard de la pensée de la mort. Il y a un refoulement tellement puissant, tellement profond, qu'il devient en effet tout à fait inconscient. Il y a une censure. Hein. On ne veut pas regarder ça, on ne veut pas entendre parler de ça. On veut Et je vous dis, le courage peut être une forme de refoulement, ce qu'on appelle le courage. C'est-à-dire, je refoule la pensée de la mort en pensant à mon courage devant la mort, en pensant à être courageux devant la mort. Et ainsi, je refoule la pensée de la mort. Je censure, je ne m'interroge pas sur ce que c'est, sur ce qui va m'arriver, sur ce que... Je refoule tout ça. Donc je refoule une angoisse formidable. Car de soi, cette pensée-là nous met dans l'angoisse et dans la détresse. Et justement, si j'y insiste ce soir, c'est à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, je maintiens que dans la révélation chrétienne, cette angoisse et cette détresse que nous devons éprouver en face de la mort, est un des chemins, et le chemin que Dieu nous propose pour découvrir son secret. Et que par conséquent, en refoulant cette angoisse, on refoule la méditation de Dieu, telle que Dieu concrètement nous la propose à travers le visage de Jésus-Christ, qui a connu plus que nous, et qui s'est défendu, pas du tout lui, contre les angoisses de la mort. Ça, c'est ce qui caractérise Jésus-Christ. C'est que justement, il n'a pas cherché à se détourner de la pensée de la mort et de l'agonie de la mort par du courage, ni par rien. Il a laissé les horreurs de la mort l'envahir jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu, c'est que justement c'est un jeu divin, cette histoire. Un jeu divin auquel je ne comprends rien, mais je sais que c'est comme ça, c'est la foi. Je crois qu'il faut que nous ayons le courage, alors le vrai courage, de regarder en face ce mystère de la mort. Et alors, là, je ne sais pas, vous voyez, je ne sais pas si tous, je ne vous connais pas tous, je ne sais pas si vous avez la foi ou si vous ne l'avez pas, si c'est une foi facile ou une foi difficile. Enfin, pour un croyant, quoi. Justement, je vous parlais de ce respect devant la mort. Bon. Eh bien, un croyant, la première chose que l'Église lui demande, s'il se présente en disant ben « c'est très gentil, vous me demandez de penser à la mort, mais moi, ça me fait peur. Ça me fait peur, ça me fait horreur, je vois pas. Si je vis avec ça, je vais plus pouvoir vivre, justement. Enfin, comment voulez-vous vivre sans oublier un peu cette affaire-là » Eh bien, la première chose que l'Église va lui répondre, c'est « écoutez, il faut tout de même essayer d'adorer. » J'en viens toujours à l'adoration, vous savez, c'est la clé de bien des choses. d'adorer la mort, non, d'adorer les mourants. Et au-delà des mourants, le mourant, Jésus-Christ. C'est sa première définition, enfin. C'est celui qui est mort. Bon, pour nos péchés, laissons ça dans l'ombre pour le moment. Hein? Enfin, tout de même. Parce que pour un croyant, même si on n'en disait pas plus que ce que je vous dis là maintenant, il y a quand même cette certitude que toute angoisse devant la mort a été d'une manière mystérieuse que je ne peux pas préciser parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, ce n'est pas du quantitatif, mais toute angoisse devant la mort a été absorbée par Jésus-Christ. Et là, justement, pas surmonté, pas dépassé, pas refoulé courageusement ou pas courageusement, non, avalé. Vous voyez, comme on avale justement des eaux amères. Il a bu le calice jusqu'à la lie. Il a digéré tout ça, il a absorbé tout ça. Donc, toute angoisse, toute peur de ce genre, c'est lui. Vous voyez, si vous la lui donnez, il se retrouve. C'est là que je dis, c'est le chemin de rencontre avec lui. Vous êtes un imbécile et intelligent. Quel point commun vous pouvez avoir avec lui, autrement que votre mort, enfin. Vous êtes un pécheur, il est saint. Mais vous, alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Jésus et moi? La mort. Alors là, il se retrouve en nous. Et c'est pour ça qu'il nous demande aussi, vous voyez, c'est là que commence le secret, à le retrouver aussi dans tous les mourants, dans tous les souffrants. C'est vraiment notre seule chance de salut, oui, ça c'est vrai. Parce que nous sommes tellement dégoûtants, par ailleurs, et de toutes les façons, qu'il nous dit, n'aie pas peur de la peur, n'aie pas peur de l'angoisse, mais c'est précisément ta chance. Ne la refoule pas, ne la repousse pas, mais c'est là que je t'attends. C'est là que je te donne rendez-vous. Et c'est là que tu connaîtras autre chose, alors dont je ne vous ai pas encore parlé, bien sûr, et qui s'appelle la résurrection. Seulement, voyez pourquoi je ne vous en ai pas parlé. Je vous donne la pointe de ce que je voudrais vous dire dès maintenant, et puis on recommencera demain, etc. Je veux vous enlever une illusion très dangereuse de l'esprit. Celle qui consisterait à se dire que vous pouvez être dispensé de l'angoisse de la mort ou de la détresse, parce qu'il y a la résurrection. Autrement dit, que vous pouvez utiliser la résurrection comme truc pour ne pas être en présence de la mort, exactement comme le nazi employait l'idée mourir comme un homme pour ne pas être en présence de la mort. Alors ça, je vous dis, je m'excuse, mais ça, c'est raté. Ça ne marche pas du tout au point de vue chrétien. C'est ce qui explique en partie bien l'échec de beaucoup d'efforts pour se consoler soi-même ou pour consoler les autres à l'aide des perspectives de la résurrection. Les perspectives de la résurrection, la perspective de la résurrection, le pressentiment de la résurrection ne nous est pas donné pour nous aider à refouler ou à nous débarrasser ou à nous permettre d'échapper à une certaine angoisse qui s'appelle la mort elle-même. Mourir ou être dans l'angoisse, c'est la même chose en fin de compte. Mais ça nous est donné au contraire comme ce que nous trouverons au cœur de ce fruit douloureux qui s'appelle l'angoisse de la mort. Et à condition d'en avoir traversé les premiers cercles. Les premiers cercles, évidemment, c'est pas encore ça. Mais au cœur de ce fruit, nous trouverons cette saveur, évidemment, qui fait exulter de joie, bondir de joie, et de la joie déjà de la résurrection avant la lettre, avant d'être ressuscité, les saints. Il n'existe pas un seul saint, je crois pas, la Sainte Vierge ne fait pas exception, qui n'ait pas connu l'envahissement de la joie de Dieu sans que ce soit après une certaine agonie. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que je vous dis? Je peux vous dire autre chose, ça n'existe pas. Alors, quand on nous dit « laissez-vous faire », ça veut dire ça. Ne trichez pas avec la situation. Il ne s'agit pas de s'inventer des modifications extraordinaires. Il y en a une qui est de taille, on sait qu'on va mourir. Quand même, c'est pas mal. Alors, ne trichez pas avec ça. Laissez, pas forcément d'une manière morbide, alors ça c'est une autre histoire, je ne peux pas tout mettre en place d'un seul coup. En un sens, la maladie peut être, l'angoisse pathologique est à la fois très vraie, parce que toute maladie est déjà un début de la mort. Et en même temps, elle est fausse parce que, justement, dans l'angoisse pathologique, je crois qu'il y a un besoin crispé de se rassurer à tout prix qui empêche Dieu de nous entraîner jusque dans cette région où alors on trouve la vraie paix et la vraie résurrection, dès ici-bas. Évidemment, là, je vous dis des choses qui sont, je crois, de la viande plus que du lait, que j'ai déjà dites sous une autre forme, je vous le répète à la plupart de ceux qui m'entendent. Il y a un mot que je n'ai pratiquement pas prononcé, sauf dans, pour l'évoquer, mais qui est tout de même important dans cette affaire, et qui s'appelle l'amour, bien sûr. Mais ni l'amour, ni la foi dans la résurrection, ni aucune perspective consolante, et pourtant je vais vous en offrir, j'espère, demain, quelques perspectives consolantes, car la mort a tout de même un autre visage que celui de l'horreur. Et dès maintenant, nous pouvons le contempler. Quand vous voyez le printemps, quand vous voyez déjà la résurrection. Donc vous voyez déjà la mort dans son visage de gloire. Et toute beauté sur la terre, c'est déjà la mort dans son visage de gloire. Alors ça, il y a de quoi se consoler. Et les Grecs, toute l'église grecque, sent ça extrêmement fort et sent frémir l'explosion de la gloire à travers toutes les beautés de ce monde. Et alors là, je suis tout à fait d'accord. À travers la musique, à travers toutes les consolations humaines, à travers l'amour humain tout particulièrement d'ailleurs, soit qu'on le pratique, si j'ose dire, qu'on soit livré à l'amour humain, soit qu'on y renonce, ça revient au même, pour ceux qui comprennent. À travers tout ça, on pressent la résurrection. Oh, alors, ça vaut la peine. Mais, attention, ça ne nous dispense pas. Toute l'affaire est là. Ça ne nous dispense pas de connaître la peur et l'angoisse, mais ça nous promet au contraire que nous n'avons rien à craindre de la peur et de l'angoisse et que c'est au fond, d'une certaine manière désarmée, et finalement confiante et aimante de subir la peur et l'angoisse que nous trouverons déjà les prémices de la résurrection.